Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il n'y a pas de tension, hein. Tranquille. Elle me regarde. Question suivante.
Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur. On est bon.
Il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres.
Jusqu'à minuit 30, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, messieurs-là, profitons-en. Un club français est en demi-finale de la Ligue des Champions. Eh oui, c'est un événement, une belle année qui continue pour le foot français. Pour l'instant, on est là jusqu'à minuit et demi dans l'After sur RMC, sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot. Ensuite, sur la libre antenne, jusqu'à 1h30 du matin. L'After, vous le savez, première radio de France, le soir, votre espace de liberté. À vous tous, les supporters, appelez-nous, supporters parisiens, le 32-16 est ouvert. Et Jérôme Rantel est là. Salut Jérôme.
Bonsoir à tous.
Daniel Riolo également, bien sûr. Salut Daniel.
Bonsoir les amis, j'ai mal à la tête mais je suis là.
Et ce soir on a un invité, une guest star, un invité vedette, voilà, inattendu, et on est ravis d'avoir avec nous Christophe Dugarry. Salut Dugar.
Bonsoir les copains, merci. Salut, de m'accueillir Christophe. Merci, je suis ravi d'être là.
Ça va?
Ouais, ça va, bah, bien sûr que ça va. On s'est régalé, c'était un bon match et tout, c'était super.
Exactement, on va analyser tout ça ensemble. On vous attend, le 32-16 est ouvert, le direct studio également, notre messagerie. Évidemment, qui est disponible pour vous sur les applis RMC et RMC Sport. Dortmund se qualifie également en éliminant l'Atlético. Tout à l'heure, on aura Paulo Breitner, Fred Hermel, qui nous diront tout ce match après minuit. Et donc, vous connaissez la demi-finale Dortmund-Paris avec match retour à Paris. Hein. Ce sera la dernière semaine d'avril, puis la première semaine, la deuxième
donc
semaine.
Donc, on retrouve l'équipe contre qui on a joué en poule.
Bravo, Daniel.
Exactement.
Non, mais comme c'était une poule que beaucoup ont dit, bah, c'est dur et tout, quand deux équipes se retrouvent en demi-finale et qu'elles étaient dans une poule, c'est que c'était pas une poule de pipe non plus.
Allez, 23h07, voilà. Les trois points, évidemment, comme de coutume, c'est parti.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel, tes trois points après ce match.
En fait, j'ai eu le sentiment quand Arojo s'est fait sortir, que c'était un PSG qui avait droit au bonheur, enfin. Que ça tournerait après les premières minutes très compliquées, qu'il y avait le droit au bonheur. Donc mon point 1, c'est le droit au bonheur, les événements qui tournent à un moment pour toi. Le deuxième, bah évidemment, après à 11 contre 10, c'est inexorable, t'as la maîtrise sur le match, et le PSG l'a très bien eu. Et le troisième point, je vais mettre ça dans le contexte historique du PSG. Je l'ai dit sur Twitter, franchement, le passé du PSG est fait de traces qui sont épouvantables. 2017, tu t'es fait braquer. 2019, tu t'es fait braquer contre United. 2022, tu te fais braquer à Madrid. Ce soir, le PSG n'a rien volé. Avec un arbitre qui va pas toujours dans le sens souvent des clubs espagnols, on a le droit au bonheur un petit peu aussi de temps en temps.
Jérôme, tes trois points.
La première de qualification historique hein, quand même pour le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions, c'est
oui,
pas
beaucoup de jamais.
Oui.
Jamais ils avaient fait ça, jamais c'est le Barça avait perdu comme ça, jamais ceci, jamais cela.
Donc noter la qualif en demi-finale et très heureux pour ce club, bien sûr. Deuxième point, bon, Daniel l'a un peu dit, autant le match aller, la meilleure équipe avait gagné, autant là, match retour, la meilleure équipe a gagné aussi. Donc comme ça.
Et les circonstances, les sept jeux ont tourné.
Oui, en plus.
Et c'est bien parce que tu les fais tourner pour une fois.
Ça voilà. S'est équilibré, voilà. Et puis mettre en avant quand même la jeunesse de ce groupe, des joueurs. Qu'on attendait à ce niveau-là, mais je veux mettre en avant Vitinha, je veux mettre en avant Barcola sur le match de ce soir parce qu'il mérite d'être mis un peu plus haut que certains.
Pour la première fois de l'histoire, messieurs, dames, les trois points de Christophe Dugarry.
Les trois points, enfin un entraîneur qui fait jouer les joueurs à leur poste, et comme quoi c'est déjà beaucoup plus facile.
Ah oui, ça c'est vrai. Plu. C'est vrai. Tu as vu, moi j'ai pas voulu en parler.
Laisse-le faire ses trois points.
Christophe.
Non, je t'en prie.
Vas-y.
L'expulsion qui, bien évidemment, est un tournant essentiel, à mon avis, dans ce match, parce que je pense qu'il y a deux Barça avant l'expulsion et après l'expulsion. Voilà, de par les caractéristiques de cette équipe, c'est vrai qu'à 11 contre 10, et des caractéristiques du Paris Saint-Germain, à 11 contre 10, ça complique beaucoup les événements. Et puis, j'ai envie de mettre aussi en perspective le dernier but du Paris Saint-Germain, marqué par Mbappé, qui fait suite à un retour de Mbappé dans les pieds du défenseur, il fait une espèce de sprint pour récupérer un ballon. Je crois que ça faisait des mois et des mois, je l'avais pas eu faire un sprint pour récupérer comme ça un ballon dans les 18 mètres de son équipe, qui lui permet ensuite, et ben après, de refaire un sprint derrière pour aller marquer. Alors avec certes un petit peu de réussite puisque ce ballon lui revient par miracle, mais voilà, je trouve que c'est les trois choses qui m'ont le plus marqué sur ce match.
Bon les gars, avant de rentrer dans les détails, de parler de Luis Enrique, de faire une évaluation complète et tout, on a vécu une soirée comme on en vit rarement. Ça c'est une grande soirée pour un club français. Jérôme, faut profiter.
Oui, bien sûr.
T'as pas l'air. Je cache ta joie, mon gars.
Non, mais.
Bah, dis-nous que t'es content, quoi.
Mais heureusement que je suis heureux pour club français. Je suis heureux.
Mais surtout quand ils sont nuls, tu klaxonnes. Et là, ils ont été super bons. T'as l'air tout mou.
Mais en fait,
allez, vas-y.
C'est pas que je suis.
Envoie la sauce.
C'est pas que je suis tout mou. C'est que je trouve que c'est logique que le PSG se qualifie aujourd'hui. Je vais pas être dans l'euphorie parce que le PSG l'a déjà fait, être en demi-finale de Ligue des Champions.
Mais pas assez souvent.
Hein. Mais il faut pas minimiser quand même. Une demi-finale de Ligue des Champions, surtout renverser un résultat comme ça avait été et c'est de leur faute, hein, sur le match aller, mais c'est une vraie performance ce soir. Alors après, il y a l'expulsion, l'effet de jeu, bien sûr, si on peut en parler, mais n'empêche que le PSG, de la première à la dernière minute, a fait un grand match ce soir, et ça c'est à noter, et c'est bien que vous l'ayez noté aussi. Vous avez commencé à en parler, mais Luis Enrique, qui a souvent été décrié, a montré aussi que tout ce qu'il met en place depuis le début de l'année, ça porte ses fruits ce soir.
Il savait revenir à la raison.
Oui, mais sauf que l'équipe du gars, il faut la construire. Et l'équipe, aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'équipe type. Mais l'équipe type, il a mis du temps à la trouver quand même. Et il a travaillé là-dessus.
Il l'avait au début de l'année.
Non, il l'avait pas au début de l'année. Parce
on a tous l'équipe type. Il y a 99 personnes sur 100. Mettez-vous en position d'équipe sur ce match.
S'il vous plaît,
il y a que lui qui a inventé au match aller.
Arrêtez. Si vous êtes en train de m'expliquer que... Non, mais attends. Barcola est un titulaire en puissance. Non, c'est pas vrai. Donc là, je peux vous contrer si vous voulez. Que Vitinha dans ce rôle de numéro 6. Qu'est-ce que j'ai pas entendu ici aussi, que Vitinha, le rôle le plus intéressant, c'était un peu plus haut sur le terrain, que Ruiz, il faisait reculer le match, du moins il faisait pas avancer le match ce soir. Ruiz, il est très
bon. Ouais, il est bon ce soir.
Je trouve très bon. Je trouve très utile à l'équipe. Non, mais le problème c'est que moi
heureux.
Non, mais je suis pas dans le fond. Non, mais attends, il faut pas oublier tout ce qui s'est dit, toutes les critiques, d'accord. Et Daniel, il faut pas avoir la mémoire courte non plus. Tout ce que je vous ai.
Là où t'es à côté de la plaque, c'est que c'est la victoire des joueurs ce soir. Tu peux pas dire c'est la victoire de Luis Enrique, parce que si c'est ça, ça veut dire que, alors ok, mais si tu veux dire ça, il faut que tu dises à l'aller que c'est la défaite de Luis Enrique.
Ah c'est ce qu'on a dit, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont dit, et moi le premier.
Tu dis textuellement, c'est la défaite du Paris, de Luis Enrique au match aller. Alors tu pourras dire que c'est la victoire de Luis Enrique, parce que quand je t'entends me dire
il a mis les joueurs à cette position là moi ça me fait rire.
Oui, déjà c'est plus facile.
Faisons dans l'ordre et reprenons le match qui avait excessivement mal démarré, parce que à 11 contre 11 tu souffres. Tu es mené à 1-0. Pourquoi j'ai parlé de droit au bonheur? Parce que parfois dans un match, même quand t'es pas bien, c'est possible que ça tourne en ta faveur. Après, effectivement, tu fais également en sorte que ça tourne pour toi. Rojo fait une boulette, c'est un jeune défenseur. Il tombe dans le piège, il fait faute parce que Barcola va très vite sur cette occasion. Derrière, il faut boucler le match. Tu tombes contre un Barça qui, de toute façon, ne sait pas défendre habituellement très très bien, et encore moins à 10 contre 11. Et le PSG va chercher une qualification. Moi, je suis heureux parce que enfin, le PSG parvient à faire tourner les événements en sa faveur. Ça, c'est le match. Parce qu'une fois que tu es à 11 contre 10, toutes les analyses technico-tactiques, elles changent. Forcément que tu es en supériorité. Forcément que tu vas prendre le dessus, que tu vas avoir la maîtrise. À moins, très honnêtement, mais de faire la pire prestation de l'histoire du club, tu te qualifiais quand même. À partir du moment où tu es à 11 contre 10 quand même.
Ah bon?
Il y a combien d'équipes? C'est un énorme avantage quand même.
C'était un énorme avantage.
T'étais quand même très bien à ce moment-là.
C'est quand même bien.
C'est quand même bien à ce moment-là d'être en supériorité numérique. Mmh. C'est bien pour le match, c'est bien pour le PSG qui, on va dire, croque bien un sûr. Petit peu, enfin un peu de réussite, enfin un événement, enfin un défenseur. On avait l'habitude que de voir les défenseurs du PSG faire des boulettes, ne pas être à la hauteur mentalement d'un événement. Là, Rojo, ce qu'il fait, c'est une faute stupide, exactement comme la faute de Cancelo sur le penalty. C'est stupide. Qu'est-ce que ouais. tu vas concéder un penalty dans cette zone? Si ce sont des défenseurs français dans un match de l'OM, dans un match du PSG, dans un match de n'importe qui, on passe une heure à les déglinguer en disant ils ont pas de mental, ils sont stupides. Bah qu'est-ce oui. que c'est que ces erreurs? Le PSG ce soir, non seulement
bah ils ont profité de ça,
est allé hein. la chercher, mais a profité.
Bah bien sûr,
ils ont et profité bon, des ça... faits et ils vont profiter. En plus, ils ont profité d'un bon tirage en huitième de finale, d'événements favorables ce soir et en demi.
Oui, t'as l'impression a priori, que les planètes sont bien alignées.
Vas-y, c'est aligné. Profites-en, bah, il faut en profiter. Fait. Moi, j'ai bon, évidemment, on était entre amis à regarder le match. Il y a eu un kiff général de dire, mais l'impression c'était waouh, enfin ça te sourit, enfin il se passe quelque chose. Maintenant, si vous voulez rentrer en dehors de ces joies de devant la télé, des matchs et tout, rentrons dans le vif du sujet. Oui, je suis d'accord avec Christophe et c'est ce qu'on dit chaque semaine. Les compos avec les joueurs qu'il a. Honnêtement, on est 80-90% à quasiment tout le temps faire les mêmes. À savoir un 4-3-3 plutôt simple. Là, il n'y a pas eu de fantaisie avec un joueur de plus au milieu, avec un Dembélé qui joue 10. Il n'y a pas eu ça. On a eu quelque chose d'assez basique. Et si tu veux, Barcola, dans ce schéma-là, oui, il a été très bien. Il a été très bien. Et surtout, profites-en, mets-le sur le côté, Dembélé sur un autre côté. Bon, bah écoute, Mbappé en ce moment est en dessous. Il a quand même mis 2 buts ce soir. Bon, vas-y, si tu veux profiter de tes 2 ailiers, fais-le jouer 9. Moi, et tu sais bien ce que j'en pense, j'aime bien quand il joue sur le côté avec un 9. Ramos n'était pas au top de sa forme. Peut-être que, est-ce qu'il a trouvé ce soir l'équipe? Est-ce qu'il variera en demi-finale? Est-ce qu'il remettra un avant-centre? Je ne crois
c'est
pas.
Une équipe, maintenant, il va y aller comme c'est ça. C'est une maintenant. Équipe qu'on sentait depuis
mais Vitinha,
quelques mois.
Quand tu parles
mois,
de Vitinha, pardonne-moi, mais honnêtement, ce gars-là, moi je suis convaincu et je serai toujours convaincu. Il est très fort, c'est mon joueur préféré dans cette équipe, tout le monde le sait. Je suis convaincu qu'il sera encore meilleur en 8. Pour moi, il est encore meilleur plus haut.
Bon, en tout cas, moi j'aimerais que Christophe, bon tu nous dises.
Il est excellent ce gars.
J'aimerais que Christophe, tu. Alors, attends, on va faire une pause d'abord. Et ensuite, on parle de Luis Enrique. Parce que Christophe avait été très dur avec Luis Enrique après le match aller. Je m'en souviens, hein, chez toi, Jérôme. Donc il faut qu'on en reparle ce soir tranquillement. Mbappé également. On aura Adèle au 32-16. On attend les réactions des joueurs également au stade avec notre équipe sur place. Il est 23h17. L'after est là jusqu'à minuit et demi. Et ensuite, la libre antenne de l'after jusqu'à 1h30 du matin. Vous allez donc pouvoir tranquillement profiter de cette qualification du PSG. En demi-finale de la Ligue des Champions. Le PSG qui y était déjà il y a 3 ans hein, en demi-finale, hein, on s'en souvient.
C'est vrai.
Et il y a 4 ans aussi. Parce
2020.
C'était la finale, rappelez-vous, l'année du Covid. Donc c'est un retour en demi-finale pour le PSG en Ligue des Champions et pour tout le foot français avec lui. A tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à 12h30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Soirée exceptionnelle avec un club français en demi-finale de Ligue des Champions et donc after exceptionnel avec un casting de rêve. Là, il y a du palmarès, il y a du joueur technique, il y a de l'opinion surtout, puisqu'il y a Daniel Riolo, Jérôme Rotten et Christophe Dugarry exceptionnellement avec nous ce soir. Christophe, dans tes 3 points, tu mettais Luis Enrique, tu disais il est revenu à la raison. Tu peux détailler un peu ce qui t'a plu du coup.
Ah ben je peux détailler, oui, je tu sais, moi j'aimerais que, alors j'aurai jamais l'occasion d'en parler avec lui, mais comment cet entraîneur, l'adversaire c'est le même, le Barça, que tu joues à domicile ou à l'extérieur, ça a pas de grosse différence. On peut même la composition d'équipe du Barça avec la composition d'équipe du Barça au retour, c'est la même à un joueur près. Je crois que c'est Pedri qui joue,
qui n'est pas titulaire et qui la joue. Ouais.
Voilà, qui était pas. Donc c'est la même équipe, sauf qu'au match aller, notre ami le génie Luis Enrique, je crois que par rapport à sa composition d'équipe de l'aller et du retour, il y a 6 joueurs qui sont déplacés. Hernandez qui jouait axe droit, Beraldo qui était titulaire, Marquinhos qui jouait à droite, Kangingli, Asensio qui jouait en faux numéro 10, Mbappé qui joue à gauche et le Paris Saint-Germain jouait sans avant-centre. Alors on a vu le résultat, 3-2. Tu me diras, l'entraîneur, il a perdu le match. On peut pas être totalement surpris qu'il change son système de jeu et qu'il change quelques joueurs. Là, il révolutionne tout. pratiquement tout. Quand tu changes 6 ou 7 joueurs de leur poste, ou tu les mets à droite, à gauche, en fait, tu les changes, tu interchanges tout. Quelle est la raison et quel est le but de l'entraîneur? Qu'est-ce qu'il a voulu faire à l'aller et qu'est-ce qu'il a voulu faire au retour? Moi, je suis d'accord pour
mais on est tous d'accord. Mais ce qu'on a toujours dit, c'est que s'il met une équipe qui est grosso modo, je sais qu'il a horreur d'être dans, on va dire, dans l'air du temps, de il veut qu'on pense différemment de lui. Mais là, ce soir, je crois que à peu près à 85%, on aurait tous mis cette équipe. Même
bah oui.
Ah bon?
Jérôme, ton micro.
Mais pourquoi on aurait pas mis cette équipe-là?
C'est là-dessus que je suis pas d'accord avec vous.
Bah, t'aurais mis quelle autre équipe, toi?
Mais parce que surtout toi, Daniel, tu viens me dire que tu voyais Barcola titulaire.
Je t'ai dit à 90%, c'est un joueur. Et encore, si on me dit que Ramos est pas en forme, puisque c'était le cas, aucun problème, je mets cette équipe-là.
D'accord.
Je mets cette équipe-là. Non, et Ougarté, je fais monter Vitinha.
Oui,
80%,
voilà.
Donc
après, ça fait déjà deux changements.
Rien ne dit que cette équipe-là, elle fait pas le même match.
Mais en fait, moi,
pardon.
Non, mais c'est même pas que les joueurs, c'est les joueurs à leur poste aussi.
Et j'aurais dit 4-3-3 classique. Alors, sans te casser la tête avec un faux 9, un faux 10
développer, s'il
et un faux je
non,
sais
mais
pas
d'accord,
quoi
non, mais,
c'est tout
mais voilà. De dire que on a tous été là sur le match aller, de dire que il avait fait plein de conneries, et du gars, tu viens de le dire. On l'a dit, on va même pas parler du match aller. Il s'est trompé. Tellement il s'est trompé, il a corrigé à la mi-temps. Ah oui. Déjà. Donc c'était mieux en deuxième mi-temps. Non, mais c'est la réalité là-bas.
Tu veux dire que Lucas Hernandez est passé arrière droit?
Oui, bah après, mais ça s'est dira justement.
Non,
mais
ce soir,
mais voilà,
que,
c'est ça.
Parce que moi,
mais
j'ai kiffé ce soir, très bien.
Ce soir, c'est quelque chose de plus classique qu'il a mis en place, parce que cette équipe.
C'est tout ce qu'on dit.
Non, mais.
C'est tout ce qu'on dit, Jérôme.
Tu gagnes rien d'autre.
Non mais attendez, les gars, je vous ai entendu tous les deux. Du gars, on fait souvent les émissions ensemble. Daniel, je t'écoute.
Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je vous ai entendu tout au long de l'année
de dire.
J'en ai marre des dingueries, des inventions qui n'apportent rien.
Exactement.
Toutes ces inventions n'apportent rien.
Là, il n'y a pas d'invention ce soir.
C'était
il y a éventuellement un choix d'homme. Il n'y a pas d'invention. Il n'y a pas de faux 10. Il n'y a pas de faux de ceci, cela. Il
n'y
a pas de mec qui joue sur son mauvais pied. Il n'y a pas de la charnière. On fait jouer un gamin qui vient de débarquer du Brésil. Il y a pas. Il y a un truc. Il y a un truc qui est logique, banal. Un 4-3-3.
De jouer sans numéro 9. Il l'a déjà fait et je pense qu'il le fera encore par rapport aux adversaires. Et ça, c'est à lui.
Ça a marché.
Mais ça, oui, ça a marché, du gars. Ça a marché. Ne serait-ce qu'à la Real Sociedad, ça avait marché quand il a mis Dembélé.
Mais tu te rends compte, Jérôme, tout ce qu'on a vécu depuis le début de la saison avec Luis Enrique en composition d'équipe.
Mais vous êtes en train de me dire que là,
cette composition d'équipe aujourd'hui, sur le match le plus important de l'année.
Gars,
j'ai envie de dire tout ça pour ça.
Du gars,
voilà, toutes ces des tentatives,
tous ces essais,
je sais pas quoi,
ça, mais moi je
pour
kiffe
nous prendre cette
moi,
match.
Me gâche pas mon plaisir, Jérôme. Il a mis une équipe basique, je suis content. Il a mis un 4-3-3, laisse-moi kiffer.
Daniel, je suis pas en train de gâcher le plaisir de quoi que ce soit. Je dis juste que là, vous êtes en tout plein de contradictions, en fait.
Mais pas du tout, c'est tout le contraire.
Donc c'est très bien si vous pensez qu'aujourd'hui, c'est devenu un bon entraîneur parce qu'il a mis l'équipe classique soi-disant en place et qu'il a emmené cette équipe en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est très bien, on pense la même chose.
Et ben voilà.
Adèle, bonsoir.
Bonsoir à tous. Tain, vous êtes enflammé ce soir. Hein.
Ah bah, c'est pas tous les soirs que t'es en demi-finale quand même, non?
Et ben nous aussi, on est contents, on est heureux. Plus on a un tirage qui est quand même favorable, pour une fois un arbitrage qui est favorable.
Non, l'arbitrage il est pas favorable, il est juste ce soir.
Oui, c'est vrai. Il y a une différence. Bon, on va essayer d'équilibrer un peu tout ça parce que vous êtes un peu en désaccord. Il faut quand même reconnaître un petit peu de positif pour Luis Enrique. Mais attendez, on parle quand même d'un effectif qui est un peu moins fort que les autres années, qui est un peu, enfin, il est peut-être plus équilibré.
Pas forcément, hein.
Oui, individuellement parlant, collectivement, il est meilleur.
Pas forcément. Moi, j'ai jamais été sur cette ligne-là. Moi, sur l'effectif de l'année dernière, par exemple, il y avait trop de joueurs qui étaient en dessous.
Pourquoi pas
un effectif moins fort que les années précédentes à 400 millions d'euros. Voilà, un effectif à 400 millions d'euros.
Ouais, mais Christophe, 400 millions d'euros, s'il te plaît, Colomboigny, il a beau valoir 100 millions, t'es le premier à dire qu'il vaut pas 100 millions.
C'est quand même un effectif à 400 millions d'euros.
Et avec
un vrai milieu de terrain créateur cette fois, ce que t'as pas eu pendant des années, ce que je réclamais depuis des années. T'as enfin un vrai milieu de terrain, malheureusement, t'en as pas plus d'un, mais t'en as un. Mais ça change la vie.
Oui, mais t'as quand même une bonne gestion d'effectifs, parce que regarde, au final, on se retrouve en quart de finale, t'as zéro blessé, tout le monde joue, tout le monde a.
Bah, t'avais qui comme blessé les années d'avant?
Mais t'as toujours des blessés chaque année.
T'avais qui? T'en avais deux principalement, mais ils n'étaient pas blessés à cause de la gestion, ils étaient blessés à cause de leur vie privée.
Daniel, il a raison. Ce que je veux dire, c'est que la gestion.
T'avais des joueurs hors de forme, t'avais même des joueurs hors de forme.
Bah, qui ça? Qui t'avais comme hors de forme? Il te manquait tout le temps les mêmes mecs.
Non mais aujourd'hui le constat,
revenons pas les années précédentes.
Non mais le constat c'est de cette année, c'est vrai que par rapport à toutes les autres équipes quart de finaliste de Ligue des Champions, c'est l'équipe du PSG, c'est l'équipe qui a le moins de blessés. Donc en fait la gestion en effet, qu'on soit d'accord ou pas, parce que moi aussi des fois je suis en désaccord avec ses choix, Luis Enrique, ça lui donne raison aujourd'hui.
Je vois pas qui était blessé au PSG les
années dernières. Après en soi, moi j'écoute tout, que ce soit l'after, Rotten sans flamme. Je vous ai jamais entendu parler du fait que, au final, si Mbappé joue dans l'axe et s'il évite de le faire jouer à gauche, c'est parce que, par moment, il déséquilibre l'équipe parce qu'il défend pas en fait.
Ah ouais, on n'a jamais parlé de ça. Je pense qu'on aura en parler une fois tous les. Heureusement que t'écoutes tout parce que alors sinon vraiment.
En début de saison,
on en parle tout le temps.
Mais en début de saison, Vitinha il joue à gauche. Pourquoi? Parce que Mbappé il défend pas.
Et Jérôme a dû en parler 150 fois de ça.
C'est vrai qu'on en a un peu parlé quand même.
Non, on n'a jamais parlé de ça, Jérôme.
Non, mais toi tu dis que c'est contradictoire parce que toi tu dis que son meilleur poste c'est jouer à gauche. Mais tu sais très bien que s'il joue à gauche, il défend pas. Donc d'ailleurs, ça déséquilibre l'équipe, Daniel.
Mais quand il joue aussi mal qu'il a joué ces dernières semaines, je peux t'assurer que qu'il dans l'axe dans, ou gauche, sur le côté, c'est un vrai problème pour l'équipe pareil. Parce non, que quand ça, tu vois vrai. Ce que fait Lewandowski ce soir par exemple et ce qu'il faisait sur les peu de minutes où ils ont joué à 11 contre 11, je peux t'assurer que évidemment ce soir on est en kiff total, mais n'oublie pas que avant d'être à 10 contre 11, je pense que t'es pas bien et je suis pas sûr que t'aurais été très bien dans ce match. Et puis quand même garder un peu de lucidité même dans le kiff.
On a souvent parlé du match de la semaine dernière de Kylian Mbappé où il s'est trompé sur toute la ligne, même en termes d'état d'esprit. Et là, Duga, tu le disais tout à l'heure, tu sens qu'aujourd'hui, même s'il fait pas un grand match, il met deux buts, il fait
mais
pas
juste
un grand
un peu
match,
plus impliqué,
mais par contre, juste il a fait beaucoup plus d'efforts.
Et oui, voilà. Et oui.
Donc, tiens, on va écouter Ousmane Dembélé avant de ensuite d'aborder le cas Mbappé. Écoutez-le, il y a quelques instants, Ousmane Dembélé, c'est au micro de qui? De double de Ramsey Sport, c'est magnifique.
Il y a eu énormément d'émotions dans ce match. Voilà, même si on a perdu le match aller, voilà, on a cru en nous. On s'est dit qu'on allait marquer des buts ici à Barcelone. Voilà, il fallait être concentré de la première à la dernière minute. Même si encore une fois on a pris un but dans les 15 premières minutes, on a encore cru en nous. On s'est dit que quoi qu'il arrive, même si on prend un but, il fallait gagner ce match. Donc voilà, on a fait un effort incroyable depuis le début de saison. L'équipe travaille énormément. On a travaillé énormément cette semaine avec le coach et la tactique, je pense qu'elle a été parfaite pour contrer le FC Barcelone.
Une dernière question à titre perso, ça a été un contexte très hostile quand même.
Oui, après, je l'ai dit, j'ai déjà vécu ça au FC Barcelone, donc... Les sifflets ne me perturbent pas. Il y a des sifflets partout dans les stades.
Voilà pour Ousmane Dembélé. On jugera son match.
Très bien, Dembélé. On l'entend pas assez souvent, mais il est juste.
Puis c'est bien de rappeler parce que avec toutes les infos qui ont pu sortir, comme quoi le PSG avec Luis Enrique ne travaillait pas tactiquement la semaine. Alors ça, je sais pas qui a sorti cette dinguerie.
Le week-end, puisqu'il jouait pas.
La preuve, c'est que Dembélé vient de te dire qu'ils avaient bossé vraiment beaucoup tactiquement. Donc ça c'est important aussi de le rappeler parce que je veux bien qu'on le critique.
Mais pourquoi explique-moi Jérôme, puisque toi tu connais parfaitement le Paris Saint-Germain, comment tu peux passer d'une organisation au match aller comme et au match retour, deux
pas.
Organisations et deux compos aussi différentes.
Peut-être que l'adversaire c'est le même sans ça. Hein. Et t'es pas obligé.
C'est-à-dire que je suis en train de penser. Non mais le mec il se donne tort en changeant autant ta composition d'équipe. Bah tu confirmes, tu reconnais que tout ce que t'as fait à l'aller, c'est une énorme bêtise.
C'est vrai. Mais je pense qu'il s'est trompé sur toute la ligne.
Qu'il aille jusqu'au bout avec un 4-3-3 basique sans se casser la tête.
Mais Daniel, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas reprocher à ce genre d'entraîneur. Et moi, je suis d'accord avec vous. On en a assez parlé. De toute façon, on va pas revenir sur le match il y a une semaine. Il s'est planté sur toute la ligne. On sait pas pourquoi il a fait ça. Moi, je pense, très honnêtement, qu'il a préparé le match. Comme il prépare n'importe quel match, parce que c'est quand même le genre d'entraîneur, il l'a montré, il le montrera encore, qui s'adapte beaucoup à l'adversaire qu'il va rencontrer, contrairement à certains coachs qui, eux, font plus basique, tu vois.
Donc, comme il a déjà joué Dortmund deux fois, il va nous remettre l'équipe du match aller quand il a gagné 2-0 au Parc.
Ouais,
quel bonheur, ce serait. Parce que là, on va se qualifier peinard, alors.
Hein. Ah, là, ça, oui, ça oui mais là, alors là, tu rechanges encore tactiquement. Et toi, tu veux le 4-3-3, mais là, c'était différent. Rappelle-toi.
On peut revenir au mien. On revient au mien. Alors, on est sur la route de mon 4-3-3 à 80%. Non, mais aller à 100%. Hein.
Après, c'est vrai que
si on va à 100%, c'est bien. Si Barcola garde cette forme-là. Mais Barcola, il avait beaucoup d'espace ce soir, le fait d'être en supériorité numérique.
Je pense qu'il
ça enlève pas son bon match.
Il y a le fait que tactiquement,
qu'est-ce qui défend mal Koundé quand même. Tu sais que Barcola, c'est un joueur chaloupé. Il a pas des dribbles, tu vois, arrêté. C'est pas un Ronaldinho. C'est pas un joueur, tu vois, qui joue arrêté. Il a besoin de prendre de l'élan. Mais va le serrer. Ben monte plus haut sur lui. Et laisse ton défenseur axe droit prendre la profondeur et toi tu lui montes dessus. Lui laisse pas prendre de la vitesse. Barcola, t'as l'impression que chaque fois qu'il part en dribble chaloupé, il va perdre le ballon et il le perd pas parce qu'il est agile malgré tout. Mais pour moi c'est pas un grand dribbleur. Ça fait pas partie des dribbleurs que je considère comme un peu comme Dembélé ou parfois d'autres.
Rien à voir.
Mais qu'est-ce que c'est mal défendu, Koundé. Je suis désolé, j'adore Koundé dans l'axe. Je l'adore. Mais ça fait partie des trois plus mauvais latéral droit d'Europe. Je comprends pas. Il est maladroit avec le ballon. Il sait pas défendre. C'est pas sa faute. Il est mis là, donc le port, il fait ce qu'il peut. Ouais. Mais c'est vraiment pas son truc. Hein.
Dans un instant, on continue le débat, évaluation, et puis dossier Mbappé à suivre. D'autres réactions. Je remercie Adèle au 32-16. On est là jusqu'à minuit 30. Le PSG est en demi-finale de Ligue des Champions. Espérons que les autres clubs français suivent jeudi. Peut-être une semaine magnifique. Peut-être une semaine magnifique pour les clubs français.
Ça veut dire qu'on a ouvert le festival.
Ils ont montré la voie.
À tout de suite dans la
RMC jusqu'à minuit 30, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h35, messieurs, dames, nuit d'after jusqu'à 1h30 du matin. L'after jusqu'à minuit et demi. Libre antenne de l'after jusqu'à 1h30. Jérôme Bretagne est là, Daniel Riolo là et exceptionnellement Christophe Dugarry avec nous. Je rappelle, vous le savez, que comme tous les jours, on vous offre vos places pour les Jeux Olympiques dans l'after. On en a encore ce soir. Donc, à partir de maintenant, vous envoyez Paris 2024 par SMS au 732-16. Paris 2024 par SMS au 732-16. Le gagnant du jour sera avec nous tout à l'heure, un petit peu avant minuit 30. Tiens, première déclaration de Xavi, le Barcelonais, qui s'est fait exclure ce soir. Il dit « Notre Ligue des Champions est terminée à cause d'une erreur de l'arbitre ».
Mais quelle erreur ?
Voilà, c'est ce qu'il a dit.
Erreur ?
Je pense qu'il estime qu'il n'y a peut-être pas rouge, j'en sais rien.
Non, mais il
je sais pas, il a dit ça
même.
En tout cas.
Quelle erreur ?
Il dit « Je viens de dire à l'arbitre qu'il a été un désastre ».
Oui, on a vu les images, il lui montrait qu'il était zéro, il est venu le chercher après un match.
Peut-être que c'est le rouge pour Xavi qui considère
Barcola, le rouge pour lui-même. L'autre fait faute. En plus, c'est limite qu'il n'y ait pas péno.
Bah, s'il y a pénalty, Daniel, il n'y a pas carton rouge, parce que la double peine, c'est fini. Donc, il retire le carton rouge et il donne pénalty.
Ah, peut-être qu'il aurait préféré le péno.
Je ne sais pas.
Non, mais il y a rouge. On est tous d'accord qu'il y a rouge.
Il y a rouge, il y a faute.
Moi, je vois pas où il y a faute là. Pourquoi il n'y aurait pas rouge, en fait, là ? Moi, je vois.
Christophe, t'es d'accord ?
Oui, bien sûr, il n'y a absolument rien à dire.
Bon, alors, il fait ça pleureuse, quoi.
Là où le Barça, je pense, s'en serait mieux tiré, c'est de ne pas avoir le rouge, d'encaisser le péno, ça aurait fait un partout.
C'est vrai.
Et à 11 contre 11, je pense qu'ils étaient en mesure, ça tournait très bien.
J'aurais
eu du mal.
Écoutez, Vitinha.
Oui, puis c'est Barcola, il est un peu jeune quand même, il arrive devant le but en 1 contre 1, c'est pas facile. Der Stegen, il sait faire quand même.
Exactement. Ouais.
Écoutez, Vitinha qui a marqué ce soir.
C'est incroyable la sensation, c'est difficile d'expliquer. J'ai rêvé avec ça il fait longtemps, j'ai rêvé avec ça il fait toute une semaine aussi, plus longtemps mais une semaine jusqu'au match pour ça, pour marquer, pour aider l'équipe pour gagner, surtout pour être en demi-finale. Il faut donner le mérite parce que le supporter il nous croit, mais à part le supporter, je pense que il n'y a personne qui nous croit et il faut montrer ça et c'est ça qu'on a fait dans le terrain. Même avec le but qu'on a incassé, on n'a pas lâché et c'est difficile mentalement. Le coach a dit qu'on va gagner le match dans le mental et on a fait ça. Après, pris un but ici, on savait que c'est deux buts d'avantage. C'est difficile de jouer avec ça, de travailler avec ça, mais on a resté tranquille et on a cherché le but et on a fait un match incroyable, gagné ici 4-1, c'est incroyable.
Christophe, tu avais été très dur avec Mbappé après le match
d'aller. Lui, c'est mon joueur kiff absolu.
Oui. On va en reparler.
Bon.
Qu'est-ce que tu dis de Mbappé après le match retour ?
Je dis qu'il a fait son match. Voilà, je dis qu'il a été dans son match. Je l'ai senti concerné. Je l'ai senti appliqué. Je l'ai senti investi. Voilà. Après, on est loin du grand Kylian Mbappé. On est loin de ses grandes prestations. Mais c'est pas le plus grave dans ce genre de match, parce que ses partenaires ont su être à la hauteur et certains plus qu'à la hauteur pour compenser un Mbappé moyen actuellement. Mais ce que j'ai aimé et ce que je demandais au match aller et ce que j'ai regretté de ne pas voir, je l'ai dit et redit, on a le droit d'être nul, on a le droit d'être mauvais en football. Par contre, on n'a pas le droit de baisser les bras. On a le droit on n'a pas le droit de manquer de grinta, on n'a pas le droit de manquer d'envie, et c'est ce qu'il avait fait au match aller. Là, il avait sa grinta, je l'ai vu dans 2-3 duels, notamment dos au but, où je l'ai vu s'impliquer, voilà, aller dans l'agressivité, je l'ai vu faire des efforts de course, je l'ai vu faire des appels, je l'ai vu concerné, voilà, et moi c'est ce que je demandais. Après
il a même pris des ballons à la tête, pourtant il est nul.
Même Mbappé, il a le droit d'être mauvais. Alors là, il a mis deux. Alors là, le pauvre, il a fait deux têtes à un moment. On aurait dit un gamin de 5 ans qui fait des têtes.
Quand tu sais pas faire les têtes, voilà,
son jeu de
tête
est nul. Il est quasi nul.
C'est
ahurissant. Je vais lui envoyer le numéro de Pierrot Labatte qui va lui apprendre avec la potence à faire des têtes, parce que là, c'est pas possible.
On va pas lui envoyer le numéro de téléphone de Titi Henry, parce qu'il était nul aussi de la tête.
Ah ouais, il a fait une tête du dessus du crâne, là, plutôt que la prendre.
Après, maintenant qu'il est 23-40 et qu'on a été, on exprime toujours notre joie à la vue de ce match, il faudra quand même mettre un petit peu de mesure, parce que
sur Mbappé là d'abord, t'es d'accord avec Christophe?
Ouais, sur cette ligne, dans le sens où bon, de toute façon, un joueur qui met un doublé dans un match, même si c'est facile, même si c'est un péno, c'est pas rien, parce que mine de rien, c'est quand même le but qui te permet de te qualifier, c'est quand même le péno. Oui. Et honnêtement, quand tu vois sa tête sur le péno, sachant qu'il est le dernier qu'il avait tiré, il l'avait raté.
Ah oui, il était tout blanc.
Écoute, ouais, il faut quand même aller le mettre. Derrière, il enfonce définitivement le Barça en mettant le quatrième. Maintenant, oui, on l'a vu être largement meilleur que ça. Oui, il y a quelques contrôles qui sont encore ratés. Oui, il n'est pas au top de sa forme. Maintenant, s'il veut se remettre,
Daniel,
sur la
voie... Ça te choque pas, Daniel, je le vois plus faire une différence en dribblant.
Si, c'est vrai. De ce côté-là, il y a un net changement. Maintenant, si jamais ça devait être un virage dans sa carrière, pourvu qu'il le prenne après Wembley, parce qu'après, on s'en foutra un petit peu, sauf pour les Bleus. Mais pour le PSG, je veux dire, s'il veut poursuivre sa tournée d'adieu et retrouver la forme sur la demi, voire plus, ok, il est loin de ce qu'il nous a offert de mieux dans sa carrière au PSG ou en équipe de France, très loin de ça. Maintenant, ce soir, il y a un peu plus d'efforts, il y a certainement plus d'implication. Ça aide, quoi qu'il en soit, le collectif à un moment ou un autre. Et encore une fois, mettre deux buts en quart de finale de Ligue des Champions, même quand c'est des pénaux, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas quelque chose de totalement simple non plus.
Surtout que le deuxième, autant le penalty, bon, après, c'est pas facile, et t'as raison de le dire, parce que la pression, elle était aussi énorme sur ses épaules. Mais bon, c'est des joueurs qui sont faits pour supporter ce genre de pression aussi, donc il a bien assumé. Le deuxième but, il est récompensé des efforts qu'il fait, en fait, parce que c'est les attaquants, les buteurs, ceux qu'on voit pas trop dans le jeu. C'est pas du tout Mbappé, hein, mais là, c'est typique ce qu'on a vu ce soir. C'est juste le buteur qui a fonctionné, parce que dans le jeu, je suis assez d'accord avec vous. Il y a des manques. Il est plus tranchant d'habitude, même sur ses appels de balle. Il est un peu plus vif. Il donne plus envie au porteur de la balle de lui donner le ballon. Là, par moments, ils hésitent. Ils préfèrent même le donner à Dembélé ou à Barcola,
les milieux de terrain. Même ses dribbles, c'est plus les mêmes. Ouais, ils sont plus surprenants.
Ça, je suis assez d'accord.
Tu vois, même dans ses contrôles de balle, je le trouve que dos au but, un attaquant, il doit être capable de faire des contrôles.
Mais il est plus lourd qu'avant, je pense.
Il fait un contrôle face à lui. Et oui, ensuite, il se sert de sa vitesse.
On parlait de Zidane.
On parlait de Zidane. Zidane, il n'était pas rapide, mais il avait cette qualité d'orienter son contrôle dans le sens du jeu, où il voulait se mettre.
Et c'est ce qui manque le plus à
Mbappé. Mbappé, il est toujours arrêté. Et ensuite, il accélère. Non, mais après, on peut parler de technique. La technique, c'est quelque chose de général. Donc, il peut y avoir des techniques totalement différentes. Et Kylian Mbappé, je crois qu'il doit progresser dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il a trop de technique qui est arrêtée. il s'arrête et ensuite il use de sa vitesse. Mais par moment, t'as pas besoin d'être arrêté. Ton contrôle, tu dois le faire sur ta prise de balle. Et ça, je le vois pratiquement jamais faire. Il va tellement vite qu'il pense qu'il suffit d'être arrêté et ensuite accélérer. Mais si, sur ton contrôle, tu enchaînes la prise de balle et ensuite tu accélères, là, la différence, elle est totale et tu vas la retrouver. Là,
il est trop arrêté dans tout ce qu'il fait. Cette qualité de technique en lui.
Ça se travaille, il a 25 ans.
Après, je suis assez d'accord avec toi, Dugas, là-dessus. La seule chose, c'est est-ce que en partant de l'axe comme il est aujourd'hui, par exemple, il arrivera à se sortir de ça parce que
ça,
qu'il a un problème d'orientation là-dessus. Tu vois, quand il est dos au jeu,
il a trop de réflexes sur son côté.
Un peu ce que fait un Lewandowski à l'inverse, tu vois, quand il est
dos au jeu. Mais c'est ça.
Donc tu sens que le contrôle lui échappe un peu. Que
les garçons, il a 25 ans.
C'est dur, surtout quand t'as un boulard comme le sien, de te dire que tu vas aller progresser techniquement, c'est-à-dire que tu vas travailler tes contrôles. Pardon, j'ai du mal à y croire.
Après, on l'attendait sur l'état d'esprit. Il a répondu présent. Ouais, et
comme toute l'équipe.
Enrique vient lui rendre hommage là. Et Enrique qui rajoute, j'aimerais mettre en avant aussi les matchs de Vitinha et Dembélé. Dit Luis Enrique. Et Xavi, alors apparemment, il pleurait sur le penalty pour Gundogan.
Je pense que ça fait partie de ce que disait Daniel. Et il a raison. C'est que les planètes sont bien alignées. Et aujourd'hui, ce genre de faute fut un temps, c'était sifflé.
Fait braquer en Ligue des Champions que pour une fois que ça tourne un peu.
Là, l'arbitre est bien placé. En plus, Vitinha, il est quand même en retrait. C'est Marquinhos qui le contrôle au départ, Gundogan. Donc, ça aurait pu siffler en effet.
L'arbitre roumain Kovac, c'est l'anti-Aitekin.
Non, mais tu trouveras jamais un arbitre aussi mauvais que Takedine ce soir.
Jamais. Ouais, non, c'est difficile.
C'est l'arbitre de la remontada. Ouais,
même Verdi, je pense qu'il est meilleur.
Jamais. Ouais. Jamais.
C'était aussi lui lors du 4-1 contre Newcastle.
Cette année?
Ouais.
Takedine?
Kovac.
Le Roumain, bien sûr. Ouais. J'ai vu que c'était lui.
Bon, Cyril est là au 32-16. Ouais, salut Cyril.
Il n'arbite plus en Ligue des Champions, c'est fini.
Cyril, je crois que tu es avec nous le soir de la remontada, c'est ça?
Ouais, c'est cool de me donner la parole un soir comme ça parce que c'était compliqué de passer ce soir-là. Je fais partie des privilégiés parce que vous étiez très sollicités. Et en fait, de vous avoir ce soir, je suis trop content. Vous avez beaucoup parlé de technique et de machin. Et moi, je voulais juste exprimer un peu ma joie et la fierté un peu. Et que demain, je vais passer une journée normale. Ce qui est quand même pas souvent en Coupe d'Europe avec tous les potes et machin et se faire chambrer, ça devient fatigant. Et donc, de ce soir, franchement, ça fait du bien. Alors, vous avez parlé de plein de choses. Donc, forcément.
On peut démarrer l'évaluation avec toi. Est-ce qu'il y a un joueur que t'as particulièrement aimé, à qui t'as envie de rendre hommage?
Je crois qu'il fait un peu l'unanimité, à moins que quelqu'un sur le plateau, mais j'en doute, me dise le contraire. Mais c'est Vitinha qui, franchement, à l'aller, c'est énorme, c'est le meilleur avec Nuno Mendes. Ce soir, il marque un but, c'est le patron milieu de terrain, ça fait vraiment du bien, spécialement pour Daniel qui, lui, est un amoureux de Verratti. Tu vois, ce soir, clairement, ça fait vraiment plaisir de retrouver quelqu'un et d'avoir l'esprit et que nos deux champions qui sont partis, que ce soit Lionel Messi ou comment il s'appelle, Neymar, ils ont fait beaucoup de mal. J'en parlais avec Adrien tout à l'heure. Ils ont fait beaucoup de mal
au club. Ouais.
C'est pas moi qui le dis, c'est vous, la presse, c'était unanime. Et puis moi, je l'ai vu aussi sur le terrain. Forcément, je regarde tous les matchs. Donc, je suis très content qu'on ait gagné ce soir. Et j'avais un pote marseillais, mais qui était cool. Donc, c'était bien. Et puis, on a passé une bonne soirée devant la télé. C'était compliqué 1-0, faut l'admettre. Et franchement, oui, le penalty, le rouge fait beaucoup de bien. On va pas sauter ça. On a encore un Donnarumma qui est franchement compliqué. Hein. Les relances au pied, c'est un massacre. On a toujours peur. Je sais pas vous, mais
après, les sorties. Il y a encore une ou deux sorties qui sont mais cataclysmiques. Mon Dieu.
Sur Lewandowski.
Oh là là, c'est lui lui le genou dans l'épaule.
S'il y a pour jeu, il y a pénalty.
Mais tu te rends compte, il part rouge.
Et le hors jeu, il
part loin. Je sais pas où il va, je comprends pas.
Non, mais moi je vous le dis qu'il y a des problèmes de vision.
Et sur le but, vous avez remarqué que sur le but, il attend. Ouais. En fait, il anticipe pas du tout, il est au deuxième poteau. Il pense qu'il va y avoir un centre derrière. Ouais,
il a quand même fait
il voit pas la balle.
Notamment un arrêt sur sa gauche là.
Moi, c'est le seul gardien que je connais qui va moins haut quand il saute que quand il saute pas. J'ai jamais vu ça. Dès qu'il saute, il est tout petit.
C'est vrai.
Incroyable. J'ai jamais vu ça.
Mais c'est vrai qu'il est pas.
C'est chaque fois.
C'est vrai qu'il est pas. Il est quand même pas rassurant. Après, il faut pas lui retirer aussi l'arrêt qu'il fait sur les bandes.
Sur les frappes et tout là, il est impeccable.
Parce qu'il prend la place, tu vois. Mais bon, c'est vrai que c'est. franchement, tu te fais une demi-finale de Ligue des Champions avec un gardien comme ça, avec qui hésite c'est autant. Bah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mérite aux joueurs de champ, hein, quand même, d'avoir réussi à se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions.
Je remercie Cyril au 32-16. On continue l'évaluation dans quelques instants ensemble, et ensuite Fred Hermel nous rejoindra. Fred, qui a perdu ses deux clubs espagnols ce soir. On va le retrouver tout à l'heure. On verra dans quel état. Bon, lui, il reste son principal club, on va dire. Enfin, à lui, Fred Hermel, je veux dire. Hein.
Ah ouais, bah, peut-être demain. Pas pour longtemps.
Hein. Ah, peut-être pas pour longtemps. On verra demain. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à 12h30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h50, Daniel Riolo est là, Jérôme Bretagne est là, et Christophe Dugarry est là également exceptionnellement ce soir dans l'after pour encore quelques minutes avec nous. On a parlé de Vitinha, les gars, vous êtes tous d'accord pour dire qu'il a fait un match... Ouais, rien à lui reprocher, quoi.
Vitinha, c'est le
Paris.
Ouais, moi, de toute façon, ce mec-là, il peut jouer à beaucoup de postes. C'est vrai que on a été étonné que Luis Enrique, en début d'année, le redescende en numéro 6. Moi, j'aime bien parce qu'il lui donne quand même beaucoup de liberté. La preuve, c'est qu'en partant de numéro 6, il met but à l'aller et but au retour. Donc, il est capable aussi de se projeter parce qu'il sent les coups.
Après le match aller, on disait qu'il fallait pas le mettre en 6, fallait le mettre plus haut.
Oui, parce que en fait, quand tu vois la créativité qu'il a, parce que s'il y a bien un mec qui peut faire la bonne passe au bon moment, t'as quand même l'impression que c'est lui. Et quand il est en numéro 6, il est au début des actions, premier relanceur, bah il a du mal à faire des passes parce que bah il faut faire des transversales de 40-50 mètres, tu vois.
Et plus haut maintenant, en soutien de Mbappé, si tu veux faire jouer Mbappé en pointe, il serait pas top.
Ouais, bah après le problème, Daniel, c'est que tu sais très bien aussi bien que moi que quand tu joues plus haut sur le terrain, les ballons, tu les as pas face à toi et tu les as souvent dos au jeu, et que quand tu es dos au jeu, il faut se mettre dans le faire des bons contrôles pour pouvoir mettre le ballon et le jeu vers l'avant, alors que quand tu pars de loin, tu es face au jeu direct, c'est le premier relanceur, et vu qu'il a une belle vision du jeu, il a une belle technique. Je trouve que ça fait des ravages. Et puis en plus, il court beaucoup.
Donc, il a une très belle frappe de balle, il en est à 11 buts cette année. Ça doit être ça.
Ça fait des ravages dans le jeu offensif, messieurs. Mais rappelons-nous quand même que Paris encaisse des buts contre pratiquement tout le monde.
C'est vrai.
Donc ça explique aussi peut-être aussi un certain manque, et aussi qui explique aussi une certaine fébrilité par moment de la défense parisienne. Moi, je veux bien qu'on parle de Vitinha, de ses qualités offensives, parce qu'elles sont totales. C'est un remarquable joueur de ballon. Il y a aucun doute là-dessus. Mais le positionner en sentinelle comme ça, c'est pas aider non plus ta défense centrale, c'est pas non plus aider tes défenseurs, c'est pas non plus aider ton équipe qui encaisse beaucoup de buts.
Ça paraît pas être un chantier parce que moi je le mettrais plus haut.
Oui, mais Duga, est-ce que Daniel pense comme toi, donc je vais vous poser la question. Est-ce que quand t'as un numéro 6 comme ça, qui est un premier relanceur plus un joueur de ballon, qui est un joueur pour détruire les attaques adverses, on est d'accord? Est-ce que c'est pas aussi les milieux de terrain qui sont à côté de lui à faire ce travail-là? Parce que aujourd'hui, ouais, moi je veux bien sur le début. Lui... Oui, mais Zaïre Emery. Alors après, on fait l'analyse là des joueurs. Mais Zaïre Emery, je trouve qu'il est en dedans aujourd'hui. Il est en dedans parce qu'il n'est pas dans les duels, il récupère pas des ballons. Alors que d'habitude, il a quand même ce côté-là et ça compense un peu les manques de Vitinha.
Je préfère sur le terrain comme cette semaine que sur le banc comme la semaine dernière. Même si je suis d'accord avec toi, ses performances ne sont pas
surtout
top
pour faire jouer Kangengli.
Sur cette période, exactement. Oui. Parce que, en fait, le problème de ce milieu de terrain à Paris, c'est pas que tu fais jouer un tel, c'est que en dehors de Vitinha, t'as pas un choix qui est dingo, et que c'est presque du par défaut. Et comme je pense que Vitinha est le meilleur et que je le mettrai plus haut pour les raisons que vient d'évoquer Christophe à l'instant, derrière.
Oui, mais je suis pas sûr
que Ruiz soit très bien devant la défense. Donc
c'est pour ça qu'il l'a décalé.
Je remets deux mecs qui vont un peu bastonner et puis qui vont essayer de jouer le plus vite possible devant pour toucher les mecs qui vont vite. Et donc je le répète, moi mon milieu idéal, même si c'est pas un crack, je remets Ugarte.
Parce que
je le fais rentrer pour avoir un peu plus de maîtrise
ce soir, franchement, je vais te dire, on parlait de l'analyse de Luis Enrique qui a été mauvaise sur le match aller et il s'est trompé, autant là elle a été bonne quand il travaille tactiquement aujourd'hui. il a quand même vu, et tout le monde le savait avant, mais lui, il lui a fallu un match à Luis Enrique pour se rendre compte que le point faible de Barcelone défensivement, c'est le côté droit, avec Koundé qui sait pas trop où se placer. Moi, j'ai vu Ruiz aller tout le temps dans le dos de Koundé qui était en retard. Soit il avançait pas sur Barcola. Il y avait Ruiz qui était dans son dos. Il y a eu plein de décalages de ce côté-là. Moi, je l'ai trouvé très actif, Ruiz, aujourd'hui. Et très utile.
Oui.
Et très
actif,
utile.
Oui. Il a, actif, il a, je suis d'accord avec toi. Mais
il a touché beaucoup de ballons.
Technique. Alors, c'est vrai qu'à un moment, il a été un peu actif sur le côté gauche en débordant. Mais souvent, ça se concluait pas par des choses très intéressantes.
C'est vrai que
soit les centres étaient ratés. Il a une belle occasion sur une passe de Mbappé. Il croise trop son tir. Ouais, t'as envie de lui dire, mec, essaie quand même de la cadrer celle-là. C'est pour ça, je te dis, un triangle. Qui reviendrait à mettre un 4-2-3-1 en fait avec double pivot Zaïre Emery ou Ugarte et en triangle pointe haute Vitinha en organisateur derrière même si tu veux continuer à faire jouer Mbappé en neuf. Vu que Barcola et Dembélé font beaucoup d'efforts pour monter et descendre, je pense que cette équipe là ce serait la meilleure.
L'influence de
Christophe,
Vitinha,
qu'est-ce que t'as pensé du match de Dembélé?
Sera pas la même.
Dembélé, le problème c'est que Dembélé, il fera toujours du Dembélé. On me posait la question tout à l'heure en avant-match, est-ce que Dembélé peut encore progresser? Je crois pas. Dembélé, faut attendre à ce qu'il fasse des choses incroyables et des choses parfois qui ratent le plus simple.
Voilà, ça fait, il a les qualités de ses défauts.
Ah bah là il est en train de
Ferme
les yeux, ça va dedans en ce moment.
Il faut en profiter.
Voilà, donc si tu veux, il arrive à faire de tels différents. T'aimerais tellement qu'à un moment, quand il est parti dans ses dribbles chaloupés, t'as envie de lui dire, mec, souffle, respire, ralentis ta course, lève la tête et donne un bon ballon, un bon plat du pied, la tranquille. Il faut lui montrer des vidéos de Safet Suzik ou de comment il s'appelle le petit brésilien qui joue à Paris là,
Valdo.
Le numéro 10 là,
Valdo.
Voilà, tu vois, au bout d'un moment là, cette passe, des trucs, voilà. Mais je pense que malheureusement ça arrivera jamais. Voilà, donc avec Dembélé ce soir, c'était moyen au début et ce but lui sauve un peu son match, ça lui a fait prendre confiance. Mais sincèrement, j'aurais toujours des doutes sur Dembélé. Il peut te faire gagner des matchs comme il peut te les faire perdre.
Après, si ça tourne bien et si ça doit être l'année où ça tourne, bah Dembélé va tout mettre dedans et il y a encore 3 matchs.
Exactement.
3 matchs pour que ça tourne comme il faut.
Et puis autant sur Dembélé, moi je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Duga et Daniel. On a souvent fait le débat et moi je l'attendais aussi parce que il a été recruté pour permettre au PSG de passer le cap aussi en Ligue des Champions sur ces matchs couperets. Et je l'attendais au rendez-vous. À l'arrivée, même s'il y a du déchet, même si le début de match contre Barcelone la semaine dernière et même aujourd'hui pendant 20 minutes, c'est très compliqué, c'est très brouillon, à l'arrivée, c'est lui qui marque 2 fois. Donc Dembélé, il a assumé, ce que je veux dire.
Ah oui, mais il fait partie des meilleurs joueurs.
Mbappé manque un peu d'influence dans le jeu. Et...
À l'aller, son but ce soir, l'égalisation, tout. Il en a tellement croqué que ce soir, t'es
franchement
content d'avoir mis dedans.
Il fait mal, quoi. Il fait mal aux adversaires. Il n'arrête pas. Alors bien sûr qu'il a du déchet, mais il n'arrête jamais, quoi. Il court, il y va, il percute. Et voilà, il y a 1-2 crochets, 3 crochets. Et après, il perd le ballon et il revient, il se replace. Il fait des efforts, tu vois. En termes d'état d'esprit, tu vois, c'est je trouve que Kylian Mbappé devrait se servir aussi du don de soi de Dembélé par moment, quoi.
Jérôme, merci. Demain, tu seras là à 18h, bien sûr.
Bien sûr, on sera là avec Duga, on sera là demain.
Exactement, et du coup, tu as gagné en plus 2 afters de plus avec les demi-finales, c'est magnifique. Avec le PSG.
C'est pour vous, hein, c'est cadeau. C'est cadeau.
Et Christophe, Daniel, on est quand même ravis d'avoir Christophe, c'est pas
absolument,
souvent.
Absolument, c'est
Christophe, t'as pas envie de venir plus souvent nous voir, tu étais bien, là, tu peux parler de jeu, de tactique, tu vois. Je sais pas.
C'est bien, mais vous êtes une super émission. Mais écoute, ça fait tard. J'ai une famille. Je travaille déjà beaucoup dans la route. Me guette, attention. Oh, les gars. Attends, j'ai des parties de golf le matin.
3 fois par semaine.
Bon. Ah bah, non, mais les gars. Oh,
je t'appelle demain, on va discuter.
Bon, allez, bonne soirée à tous.
Salut les gars, merci beaucoup. Dans un instant, les drôles de l'âme arrivent. Fred Hermel qui va nous dire ce qu'il a pensé du Barça. Et puis l'analyse de Dortmund, Atlético, bien sûr. Le PSG affrontera Dortmund en demi-finale, match aller en Allemagne, match retour au Parc des Princes. L'after continue. Et ensuite, la libre antenne de l'after jusqu'à 1h30 du matin. À tout de suite.
RMC jusqu'à 1h30.
L'after foot. RMC jusqu'à 1h30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est minuit une. L'After continue jusqu'à minuit et demi. Ensuite, la libre antenne de l'After avec Oussem Loussaïef, avec Thibaut Jeangrande. Ce soir, avec vous tous au 32-16, évidemment. Si vous êtes supporter parisien et que vous n'avez pas pu passer dans l'After, vous avez encore une bonne heure tout à l'heure pour parler de votre match. Hein. Donc, n'hésitez pas à appeler le standard RMC qui est ouvert. Fred Armel nous rejoint. Salut, Fredo.
Hola, chicos.
Bon, Fred, t'en as perdu deux ce soir. Hein.
Eh ben ouais. Et puis demain, c'est compliqué, mais de toute façon, moi je sais, moi je regarde la Liga et je sais. Donc quand on essaie de me contredire, je vous dis que ça va pas bien en Liga. On n'avait plus d'équipe d'Europa, de Conference League en huitième, on n'avait plus d'équipe d'Europa League en quart, et là on n'aura peut-être pas d'équipe de Ligue des Champions en demi, quoi. Donc
Ah tiens, d'ailleurs, bon. Je l'ai pas dit, mais 4-1 à Barcelone, une équipe française l'avait déjà fait.
4-1 à Barcelone, belle PSG.
Metz,
oui, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Le FC Metz, bien sûr.
Tout le monde a oublié cette histoire.
84.
Ouais. Non, 84. Oublié, c'est sûr. Et vous avez vu la stat du jour sur le Barça ? La seule équipe française invaincue contre Barcelone ?
Strasbourg.
Strasbourg.
j'ai vu ton tweet. Hein.
Non, mais ça,
en combien de matchs ?
3 matchs.
Pourquoi 3 ?
À l'époque, Coupe d'Europe des villes de foire.
Oh là là.
Attends !
Parce qu'il est allé chercher, mon Dieu.
Match aller, 0-0 à Barcelone. Match retour, 1 partout à Strasbourg. Match d'appui à Barcelone, 0-0. La pièce, on gagne.
Vous avez gagné à la pièce ?
À la pièce.
Mon Dieu.
C'est une autre époque.
Ah là là.
Bon, allez, on écoute Xavi tout de suite.
C'est
et
magnifique.
Après, Fred, t'as la parole.
Contrariés et enragés parce que je pense que le fait de jeu a été décisif pour la qualification. À 11 contre 11, on était bien sur le terrain, bien organisé en attaque et en défense, et ce jeu décisif détermine entièrement la qualification. Il y a une autre qualification s'il n'y avait pas eu ce fait de jeu. Pour moi, c'est trop sévère dans cette action. Je ne pense pas que ce soit bon pour le football.
Bon, il est en colère.
Il est gentil, là. Il y a d'autres déclarations dans une télé espagnole, encore pire.
Ah ouais.
Où il dit que ce n'est pas normal que l'arbitre ait été mauvais, qu'il n'a pas su diriger ce match.
Donc il parle bien du pénalty supposé sur Claude Gogan.
Et sur le carton rouge.
Sur
le carton rouge, il dit ce n'est pas possible que sur une telle erreur, on fasse exploser tout le travail d'une saison. Donc là, la déclaration que vous avez eue est la plus légère, parce que sinon, il est très. Après, moi, je pense que le grand responsable ce soir, c'est Xavi, de la défaite du Barça. Autant il avait été très bien il y a une semaine, autant ce soir, à ce niveau-là, tu peux pas laisser ton équipe toute seule, voilà, avec ton frère qui va te remplacer sur le banc.
Tu veux dire pour le fait qu'il prenne le carton rouge ?
Mais oui, il prend un rouge, lui, parce qu'il doit maîtriser ses nerfs.
Oui, parce qu'il a pété un câble, oui.
Il a pété un câble, il a donné un coup de pied dans les protections de la caméra, il a dit « chuputa madre », il a hurlé « chuputa madre ».
On l'a bien vu. Vous avez sur bien ses lèvres.
Non, mais bon, moi, le spécialiste espagnol, donc c'est moi qui dois confirmer. Voilà.
Très bien, je te remercie pour la confirmation.
Voilà, donc, c'est-à-dire que tu peux pas, c'est-à-dire qu'à un moment comme ça, c'est pas normal. Et en Liga, ça arrive souvent. Là, il s'était pris deux matchs, là. Donc c'est pas normal. Oui, c'est un fait de jeu. Enfin, c'est un fait de jeu. Bien sûr, il y a des arbitres en Espagne, dans les médias, qui disent que, notamment sous l'arbitre de Cadenasser, qui est très pro-Barça, qui dit
moi, je sais pas, on a adoré le joueur, mais là, ce soir, il dit n'importe quoi.
Ils sont au courant, quand même.
Son équipe était en perdition.
Que le PSG, en 2017, c'est un braquage international. Qu'en 2019, il y a une main qui tombe du ciel pour se faire éliminer. Qu'en 2022, Benzema, il défonce le gardien. Et que dans d'autres matchs, dans 80% des cas, il y a faute, et là, il n'y a pas eu faute. Tiens, ça va. Là, le mec, il part tout seul au but. Il y a faute sur lui. Pourquoi tu veux qu'il n'y ait pas carton rouge?
Et si tu laisses terminer.
Qui est carton rouge, il peut ne pas le donner.
Si tu me laisses terminer,
qu'il le donne, c'est pas un scandale. Déjà,
non, mais je vais te dire, à part cet arbitre pro Barça, pour les autres, c'est une erreur monumentale de Araujo. Il y avait même un commentaire d'un arbitre qui disait, il vaut mieux prendre un penalty que de laisser son équipe à 10 pendant
le plus dur. T'as raison, mais il faut qu'il le laisse aller au but. Le contrôle, il est un peu raté. Son ballon est trop long. Je suis même pas sûr qu'il mette le but face à Ter Stegen.
Non, bien sûr. Non, mais c'est pour ça.
C'est une erreur terrible d'Araujo, c'est tout.
Et ça, c'est très étonnant parce qu'Araujo, c'est vraiment l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Espagne, sinon le meilleur. Mais moi, je trouve que là. Oh, il est jeune encore.
Bah oui.
Il a 24, si je dis pas de bêtises.
Ah ouais, je pensais 22, tu vois.
Tu vois, mais on va vérifier. Mais
c'est une grosse erreur. D'habitude, on souligne les erreurs des Parisiens. Et là, bah, et voilà.
Ah oui,
là,
non, c'est... Et puis, alors, je vous écoutais sur Dembélé. Ce soir, il démonte Cancelo.
Oui. Ah, sur le penalty.
Mais non, même surtout, enfin pendant le match, Cancelo, c'est le pire de Barça, c'est lui qui a reçu les pires notes dans tous les journaux espagnols. Mais c'est vrai que Dembélé, là, lui a, c'est vrai que je suis d'accord avec vous sur la finition, sur le lever la tête, sur
des bonnes passes, etc. Mais il a qui va concéder, mais c'est un penalty d'une bêtise hallucinante.
Et bien sûr.
Allez, faire une faute à cet endroit-là de la surface de réparation, mais je suis plus tout à fait d'accord.
Je suis tout à fait d'accord. Donc
le Barça, ils se sont mis dedans tout seuls. Xabi, il a pas à venir gueuler, à invoquer, je ne sais quoi. Il faut qu'ils se rendent compte que c'est eux qui se sont mis dedans complètement. Une fois que ça tourne en faveur du PSG.
Et non, mais en plus, je pense que la nervosité de Xavi a été transmise à ses équipes, à son équipe. Il a pas montré la force mentale dont il aurait besoin. Et tu peux pas laisser ton équipe comme ça dans un match aussi important. Donc voilà, parce que son frère qui le remplace, qui s'appelle Oscar Hernandez, c'est pas Xavi, quoi, là. Donc, c'est une grave erreur. Après, sur l'ensemble du match, on avait bien vu la semaine dernière, le PSG, dès qu'il avait accéléré, dès qu'il avait montré beaucoup d'envie, avait marqué les deux buts très rapidement. Ben, ce soir, et de toute façon, même la presse catalane, qui est très, très pro Barça, reconnaît que le PSG, il y avait une citation du Journal Sport qui disait, le PSG a été plus atrevido, c'est-à-dire qu'il a plus osé tout le temps que le Barça du début à la fin du match. Et ça s'est vu ce soir. Le Barça, la semaine dernière, le Barça a laissé la chance, le PSG a laissé plusieurs chances au Barça. Ce soir, il a moins laissé de chance au Barça et ça s'est vu. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute. Et les gens sérieux en Espagne trouvent que c'est tout à fait mérité que le PSG soit en demi face à ce Barça-là qui,
il y a eu quand même beaucoup de matchs. Ils se sont sabordés. Ils ont donné au PSG l'occasion de faire un exploit. Voilà.
Mais bien sûr. Et ils se sont sabordés en plus dans, mais moi, je me souviens la dernière défaite qui avait provoqué l'annonce de Xavi, de son départ en fin de saison, perdre à la maison dans un match complètement fou contre Villarreal, il y avait un peu de ça ce soir aussi. Donc voilà, moi il y a rien à dire. Après, ça souligne aussi la difficulté de reconstruction de ce Barça qui, et je disais avant le match que la vraie chance du PSG, c'est que le Barça cette saison prenait beaucoup de buts. Bah ouais, ils en ont pris 4 ce soir, donc c'est tout à fait finalement c'est tout à fait logique. Et puis le Barça, c'est quand même une équipe qui a priori aura 0 titre cette saison, quoi. Il y a le Classico dimanche, s'il n'y a pas victoire dans le Classico, il y aura aucun espoir. Mais c'est quand même 8 points là, 8 points. Et le Classico, c'est à Madrid, hein, donc et c'est 8 points. Donc même un match nul, c'est la fin de la Liga Souken. Donc c'est la fin de Xavi ce week-end. Donc voilà, c'est une équipe avec des joueurs. Après, Lewandowski fait encore un super match. Sincèrement. Après, le choix de Pedri. On a bien vu, mais Pedri, physiquement, c'est tellement dur. Le gamin, il a deux fois 20 minutes depuis sa blessure d'il y a plus de 2 mois. Donc c'est normal. J'ai trouvé De Jong un petit peu en dedans aussi. Donc voilà, il fallait que ce soir les.
Et Rafinha, évidemment, moins présent qu'à l'aller.
Ouais, mais il a encore été le meilleur ce soir.
Même s'il a marqué. Ouais.
Ah ouais, mais même dans le jeu et tout, il a quand même. Enfin, je l'ai trouvé mieux que la plupart. Donc voilà, c'est logique pour le PSG et face à un Barça qui, quand le PSG est une équipe, comment dire, supérieure, en tout cas dans l'impact physique, dans l'envie ce soir, et ça s'est bien vu.
Je vous livre quelques déclats de Luis Enrique en conférence de presse. Il dit pour moi c'est spécial parce que c'est le Barça. D'ailleurs j'aimerais bien ne plus avoir à rejouer contre le Barça, dit Luis Enrique. Il ajoute qu'il a toujours cru, les joueurs y ont cru. Concernant Mbappé, il a été le leader incontesté de l'équipe ce soir. Chapeau, il montre l'exemple. Il dit et nous sommes toujours vivants dans toutes les compétitions, c'est l'essentiel. Concernant Dortmund, il dit on a été dans le groupe de la mort avec eux. Et on est maintenant dans un écarté. C'est une équipe qui joue très bien au foot. Concernant la remontada, alors là, je sais pas si là, à partir de combien de buts d'écart on utilise le mot remontada, mais enfin bon. Il dit, lorsqu'on fait partie du foot professionnel, c'est quand on voit qu'avec ton travail, ça se reflète dans ton club. Ça veut rien dire cette phrase. Bon, enfin bref. Il dit, les deux remontadas ont été impressionnantes. J'espère que nous pourrons arriver jusqu'en finale. C'est vrai que du coup, il était sur le banc l'autre fois aussi. Il dit, maintenant, moi, je comprends les points de vue des uns et des autres. On a pu préparer le match tranquillement, préparer notamment les joueurs au niveau mental, dit-il. Quant à l'arbitrage, il dit, moi, je ne juge jamais les arbitres.
Surtout quand ils sont en ma faveur. Surtout quand ils font bien le boulot en ma faveur.
C'est vrai, et il a dit quelque chose qui est vrai, qu'on a très peu évoqué, c'est qu'il bosse avec un préparateur mental. Ce dont le PSG avait certainement besoin au vu des échecs répétés qui étaient très souvent dus à un mental défaillant.
Je suis tout à fait d'accord, si tu me permets, parce qu'après le but de Barcelone, le PSG s'est pas écroulé. Pas du tout.
Et sur le Barça, il dit on a rencontré le meilleur Barça de la saison. Ils ont joué avec des passes longues. Je crois que Xavi est l'entraîneur idéal pour le Barça. Là, il chambre ou il est sincère, Fred?
Non, mais là, il chambre. Parce que les passes longues, excuse-moi, c'est pas le jeu de Xavi et le jeu du Barça. Rappelez-vous que dans l'avant-match, Luis Enrique, enfin, hier, disait que contre, au match aller, Ter Stegen avait dû dégager.
En direct, je te coupe, Fred. On va appeler Barcola en direct.
Dis-moi,
en
ce moment, au pied du virage,
on a tous
fêté ça avec.
Bon, je sais pas si ça va être très bon, on va voir.
C'était exceptionnel. On avait beaucoup de soutien des supporters, même après la défaite. Donc, c'était comme ça qu'il fallait le remercier. On a montré qu'on avait un bon état d'esprit. Ils ont été avec nous. Ils ont été avec nous du début à la fin. Donc, on est content de fêter ça avec eux.
Voilà, on t'en parle très bien. On va s'arrêter parce que malheureusement, il y a trop de souffle. Juste un tweet de Kylian Mbappé qui s'auto-tweet. Puisqu'il tweet lui-même ses deux célébrations de but, Kylian Mbappé. En écrivant, nous sommes le Paris Saint-Germain. C'est un truc, c'est plutôt je suis le Paris Saint-Germain. Là, les photos qu'il
tweet. Je pense qu'il a un CM qui gère tout ça, non?
Ah, peut-être. Ouais. Oui, je pense.
Nous sommes, c'est, il parle comme Louis XIV quand il parlait de lui-même.
Dans un instant, Paulo Breitner nous rejoint pour évoquer l'autre match entre Dortmund et l'Atlético Madrid.
C'est fabuleux.
Et puis le reste de l'actu du jour.
Incroyable bien sûr. Match. Hein. Mais là, les quarts de finale de la Ligue des Champions, pour l'instant, c'est régalade. Hein.
Exceptionnel.
Régalade.
Je me souviens pas de quart aussi rayonnant, en fait, voilà, aussi avec autant de rebondissements.
Allez, à tout de suite dans l'after avec Paulo Breitner, Fred Hermel, encore un quart d'heure ensemble et ensuite ce sera la libre antenne.
RMC jusqu'à minuit 30, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 14 et l'after est là jusqu'à minuit et demi. L'after qui continue ensuite avec la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin. Fred Hermel avec nous et Paulo Breitner nous rejoint. Salut Paulo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Ben, Paulo,
bravo.
Franchement, vu tout ce que tu as mis à Dortmund cette année, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit possible qu'ils aient une demi-finale?
Oui, mais pour moi, c'est la qualification de l'intranquillité.
Ah, c'est-à-dire
c'est que tu vois le scénario de la rencontre, encore une fois. Le Borussia Dortmund fait tout pour se faire éliminer. C'était déjà le cas lors du match aller, la différence de qualité entre la première mi-temps et les 25 dernières minutes. Là, tu as un match qui... Le scénario est fou, parce qu'en Allemagne, on parle de le double comeback, en fait. Du fait, évidemment, que le Borussia Dortmund menait 2-0 à la mi-temps, le retour de l'Atletico 2-2, et puis ça finit à 4-2. Mais surtout, cette équipe est dans l'incapacité de conserver un résultat. C'est comme ça dans tout beaucoup de ces matchs en Bundesliga, c'est comme ça dans beaucoup de matchs de Ligue des Champions, mais le scénario est fou. Parce que dès la deuxième minute, Zabitzer peut ouvrir le score. Il y a une super intervention.
C'est incroyable d'ailleurs, pardonne-moi, c'est incroyable qu'il temporise avant de reprendre. Quoi.
Et donc on se dit, allez hop, petit truc. Et puis deux minutes après, Morata rate son duel face à Kobel. Oh, donc tu vois, ça pouvait être la qualification déjà pour l'Atletico. Et puis le Borussia Dortmund finalement. Et là, je pense qu'il y a un problème du côté de l'Atletico. Je pense qu'ils ont un problème physique. C'est-à-dire que ce club n'est plus capable, cette équipe n'est plus capable. D'ailleurs, quand je vois les noms, j'ai l'impression de les entendre depuis le siècle dernier.
Mais c'est vrai.
Mais j'ai l'impression que il y a eu cette première mi-temps extraordinaire lors du match aller où ils couraient à 200 à l'heure quand le Borussia Dortmund était à 50 et puis il y a eu la deuxième mi-temps
qui
était tout pareil. Tout ça c'est un peu pareil. Moi je le défensivement l'Atlético Madrid que j'ai vu ce soir notamment dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, c'est pas l'Atlético qu'on a l'habitude de voir qui fait du vice, qui met des coups partout, qui réussit à tenir, c'était assez facile entre guillemets sur le côté gauche notamment de marquer les deux buts, deux beaux buts de Julian Brandt et d'ailleurs Oblak est pas clair avec sa main et sur
Oblak il est de moins en moins clair, hein. Lui qui a été peut-être dans les top 2, top 3 gardiens.
Il en sort une ou deux quand même ce soir, hein, mais
C'est plus le Black que c'était, le haut Black que c'était, pardon.
Comment il s'appelle, Simeone joue son va-tout au début de seconde mi-temps, ça fonctionne, et là encore une fois, tu ne comprends pas pourquoi le Borussia Dortmund s'écroule de cette façon. Donc tu te retrouves à 2-2 et tu dis mais c'est pas possible. Et puis finalement il y a les 20 dernières minutes avec un Zabitzer qui était étincelant.
Lui c'est un sacré joueur. Hein.
Ah mais oui, mais c'est pas tout à fait celui qu'on a vu au Bayern Munich, c'est celui de Leipzig, c'est celui du Borussia Dortmund, c'est celui qu'on n'a pas vu.
Dans le match contre le PSG, Sabitzer, c'est lui qui au début sur le match aller n'est pas là ou sort au début de la rencontre. J'ai un petit trou de mémoire là-dessus.
Je vérifie
le match aller. Je crois qu'il y a un problème. Je crois qu'il n'est pas là, Sabitzer.
Et puis il y a Füllkrug qui est très critiqué en ce moment en Allemagne parce qu'il marque plus depuis plusieurs semaines, qui te fait une tête décroisée, qui est
exceptionnel. Là, au Black, il peut rien faire sur celle-là.
Voilà, non, il peut rien faire. Et en fait, et à la fin, t'as le 4-2 avec Zabitzer, le droitier, qui marque du côté gauche. Moi, j'y croyais pour des raisons simples. C'était les statistiques. C'est qu'à chaque fois que l'Atlético rencontre le Borussia Dortmund, c'est Borussia Dortmund à la fin qui passe. Mais si tu veux, lorsque je regarde, alors le scénario est génial pour les gens, pour les supporters, etc. Ça fait beaucoup de buts. Mais moi, honnêtement, quand je regarde une fois de plus la prestation globale du Borussia Dortmund, ils sont incapables de rester concentrés de la première à la 90e minute. Adeyemi ce soir, c'est pas extraordinaire. Sancho, on ne l'a pas vu non plus. Et pourtant, à la fin, il y a la qualification. Donc, il y a bien un petit truc dans cette équipe quand même. C'est pas une équipe de baltringue. Mais tu es supporter du Borussia Dortmund, match après match, tu peux pas être cardiaque parce qu'il se passe toujours quelque chose. Je suis un petit peu déçu, honnêtement, par la prestation de l'Atlético, parce que quand tu vois le premier quart d'heure, tu vois que techniquement l'Atlético est supérieur au Borussia Dortmund dans le jeu en triangle, etc. Sur la double confrontation, j'ai l'impression que le Borussia Dortmund, on lui a donné sa chance et il l'a saisi, quoi.
Alors, il faut, je peux me donner mon avis par rapport à ça?
Vas-y, vas-y.
L'Atlético n'est pas une équipe pour un match fou. L'Atlético, c'est le meilleur Atlético, c'est l'Atlético qui gagnait 1-0 et qui après ne prenait pas de but. C'est-à-dire ces matchs avec des rebondissements où ça va d'un côté à l'autre, etc. Ce n'est pas bon pour l'Atlético. Et c'est vrai que physiquement, les mecs commencent à être cramés. D'ailleurs, préparateur physique historique Oscar Ortega va partir. Il les a beaucoup cramés. Donc ça commence à se sentir, ça. Et moi, je trouve que ce soir, Simeone il fait les changements qu'il faut, mais on avait bien vu la semaine dernière, l'élément différenciateur, c'était Griezmann, qui ce soir fait pas un mauvais match, mais il n'est pas étincelant comme la semaine dernière. Et ça, il a manqué dans la temporisation qu'à un moment, l'Atlético, quand ils sont à 2-2, il n'y a pas un Griezmann qui met le pied sur la balle et qui dirige les débats. Et ça s'est senti.
Ouais, donc il était sorti à la 14e, c'est bien mon souvenir. Sabitzer, en début de match, se blesse et sort. Et
Au match aller.
Polo, est-ce que tu considères qu'il y aura un gros écart entre Dortmund et Paris en demi ou pas?
Je considère que le PSG est le favori, oui, évidemment. Le Borussia Dortmund aime se mettre dans la panade et il y a un moment où ça va faire mal, quoi. Je veux dire, c'est tout bonus d'être en demi-finale en ce moment, même s'ils ont fini premier de leur groupe, excepté la double rencontre contre le club anglais Newcastle. Moi, j'ai pas trouvé un Borussia Dortmund extraordinaire. Milan a été très décevant. Les gens ont pas vu spécialement la huitième de finale contre le PSV Eindhoven, mais c'est dramatique, quoi, le niveau de jeu. Et ce soir, on a augmenté quand même d'un petit niveau. Mais c'est pas une top équipe européenne qui était en face. Moi, peut-être qu'elle est en fin de cycle. Enfin, Fred parlerait de ça mieux que moi. Mais là, je considère que je sais pas pourquoi cette équipe est incapable de, tu vois, Mats Hummels, il te fait des super matchs en ce moment, mais il trouve le moyen de se prendre un but ce soir. C'est un but contre son camp. Enfin, le but du 2-1 est dramatique. Il y a un corner pour l'Atlético. T'as presque 10 secondes pour qu'il arrive et le mec, il a tout tranquille, le temps de mettre la tête. Et puis, Mats Hummels marque contre son camp. Enfin, il relance l'adversaire comme ça. Donc,
le but de Correa, il est ridicule aussi parce qu'il peut leur prendre deux fois le ballon.
Oui, ils sont lents comme pas possible. Donc, tout ça fait que c'est difficile de pronostiquer une qualification du Borussia Dortmund.
Maintenant, avec en plus pas de retour à Paris.
Ouais. Par contre, attention, parce qu'à domicile, Dortmund, ça fait depuis que Terzic est là, ils sont invaincus. Ça signifie pas qu'ils gagnent leur rencontre, mais ils sont invaincus. Donc il faudra que le PSG ne coule pas au Westfalenstadion et fasse la différence au retour. Et ils sont largement capables de le faire, de mon point de vue.
Et Arnaud est là, supporter du Borussia. Salut Arnaud.
Salut, bonsoir à tous.
Bon, c'est inattendu pour toi cette demi-finale ?
Le problème c'est qu'avec cette équipe, tu es systématiquement, comme le disait Polo, sur courant alternatif. Tu vois une première mi-temps que tu qualifierais de globalement maîtrisée. Et puis en un quart d'heure, tout ce que tu as fait pendant 45 minutes est totalement balayé. Tu te retrouves à 2-2. Tu te dis le match il va basculer forcément du mauvais côté, et puis là où t'es pas forcément le mieux, t'as full group que tu vois quasiment pas de 60 minutes qui te claque une tête. T'as ensuite Sabitzer, comme le disait aussi tout à l'heure Polo, qui est droitier, qui va mettre un but du pied gauche qui t'amène à 4-2. Enfin, très sincèrement, ce mois d'avril qui était pour nous extrêmement dangereux avec que des matchs très difficiles, il est totalement irrationnel, parce que tu vas gagner à Munich alors que depuis plusieurs années c'est un endroit où on brille pas vraiment. Tu reçois ensuite le troisième du championnat contre qui tu t'inclines. Tu vas ensuite gagner à Gladbach en finissant le match à 10. Enfin, voilà, faut pas être cardiaque, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, le point positif de tout ça, c'est qu'il faut se dire qu'avec cette équipe, tout peut se passer, aussi bien d'un point de vue positif. Donc, c'est ce qu'on va retenir ce soir, mais parfois, ça peut aussi basculer dans le négatif, quoi.
Bon, et tu considères aussi que le PSG sera grand favori ?
Alors, grand favori, je sais pas. Favori, c'est certain. Puisque c'est une équipe qui, en phase de groupe, a pris 4 points sur 6 contre nous.
Donc les deux fois Sabitzer, j'étais en train de regarder. Hein, les deux fois, c'est bien ce qui me semblait. Sabitzer n'est pas là.
Bon, après, c'est sûr que Sabitzer,
c'est quand même un joueur essentiel.
Oui. Kylian Mbappé en direct, on écoute. Il dit je veux gagner la Ligue des Champions avec Paris.
Mucha suerte a ellos, pero ahora está para nosotros y vamos a intentar a ir a Wembley.
C'est un peu le bordel. En tout cas, il est prêt. Hein, il parle espagnol.
On va tenter d'aller à Wembley.
Il dit quoi ? T'as dit quoi, Fred ?
On va essayer d'aller à Wembley.
Voilà. Comment tu juges le niveau d'espagnol là, en 2-3 phrases ?
C'est pas quelqu'un qui a pas été là-bas.
Non, il parle.
Attends, ça continue, ça continue.
Porque trabajamos durante 6 días después partido en París.
Vas-y, Fred. Nous avons travaillé pendant 6 jours avec le staff entre les deux matchs. C'est un grand jour pour le club. Et il faut féliciter tout le monde du club, les joueurs et le staff, bien sûr, bien entendu.
Non, j'ai déjà dit que même si on avait perdu,
on a plus besoin de
temps. Je suis toujours fier d'être parisien. Maintenant, c'est sûr que dans des soirées comme ça, la fierté, elle est encore plus grande. On est très content. On voit une équipe qu'on avait envie de battre. Donc c'est ce qu'on a fait, mais vraiment félicitations au groupe. Comme j'ai dit, voilà, dans une autre langue, on a préparé le match pendant 6 jours avec l'idée qu'on allait gagner, on allait venir se qualifier.
Ça fait une émotion avec les supporters du match.
Bon, on n'entend pas très bien, mais on va quand même rester. Hein. Montez le son de votre radio.
C'est compliqué. On n'a pas été aidé dans l'organisation du match, les places et tout ça, c'était une galère. Donc c'est sûr qu'on a pensé à eux et on est très content. J'espère que tout le monde va rentrer sans sauf à la maison. Voilà, faites attention, prenez soin de vous, de vos familles. Et voilà, on continue tous ensemble vers les demi-finales.
Alors on a les Espagnols comme des fous furieux qui ont pris sa décision, c'est bien ça, Fred.
Non, il a dit est-ce que ça va pas te changer ton opinion? Je crois que c'est ça qu'il a dit, non ?
Ouais.
Bon, tu vas pas changer ta décision.
C'est quoi la réponse ?
C'est fini, il est parti là. C'est fini, il est parti.
Il est parti ?
Il n'y a pas de réponse.
Il est parti.
Franchement, c'est quand même pas anodin ce niveau d'espagnol qu'il a. Il a quand même bossé.
Quoi, tu rigoles, il parle très très bien.
Bah oui, c'est étonnant. Ouais. Évidemment qu'il doit prendre des cours.
Il parle très bien anglais. Il parle très bien espagnol.
Anglais, j'ai jamais entendu.
Si,
de toute façon, ce qui va compter là, le prochain, c'est l'espagnol bientôt.
Et est-ce qu'il y a un truc qui ne fait pas bien, Mbappé ? Peut-être qu'il ne sait pas faire la cuisine, peut-être. Ou je sais pas, ou changer la moquette, ou bricoler. Je sais pas, il doit y avoir un truc qui ne fait pas bien, Fred, non ?
Bah, il paraît que sur les tuiles, en tant que couvreur, il n'est pas terrible. Mais moi non plus, donc.
Arnaud, toi qui es supporter de Dortmund, tu veux rajouter un truc ?
Oui, juste dernier élément très très propre au club, c'est qu'au-delà de la qualification en demi-finale, c'est aussi quelque chose qui peut rendre la cinquième place du championnat allemand qualificatif pour la Ligue des Champions en direct. Donc comme on dit souvent, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc ça, c'est évidemment une victoire qui va permettre un petit peu plus ça. Donc ça peut enlever aussi une certaine pression au club, tellement il y a d'écart entre la cinquième et la sixième place en termes de championnat. Donc ça peut permettre d'aborder aussi la demi-finale un petit peu plus libérée, peut-être par rapport à la course à la Ligue des Champions au niveau du championnat.
C'est un bonus en fait, la demi-finale.
Bien sûr.
Mais ça reste la priorité. Les priorités, c'est ce que qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, oseille oblige. Et ça, c'est dramatique.
Oseille oblige.
Bah ouais, c'est comme ça.
Oui, t'as raison, Polo.
En sachant que le Bayern.
Mon rire ne voulait pas dire que j'étais pas d'accord.
En sachant que le Bayern est par ailleurs très en place pour également se qualifier demain, pourquoi pas. Hein, donc, voilà.
Bah, ça serait marrant parce que je sens la presse allemande qui va s'exciter parce que si on revoit Dortmund et le Bayern en demi-finale, ça va nous rappeler 2013 évidemment et la finale à 100%.
Absolument.
Ça serait marrant d'ailleurs que le Real, pendant un moment, vu au début du match, tu te disais, ça serait marrant qu'on ait Dortmund, Barça et Bayern Real en demi-finale parce que c'était le côté inversé.
C'était les affiches à l'époque, non ?
Non, inversé en fait, parce que c'est Lewandowski qui fait l'amour au Real au match retour notamment. Et en claquant des buts, le triplé.
Absolument.
C'était différent, mais honnêtement, même si le Bayern se qualifie demain, ils seront pas les favoris en demi-finale, que ce soit le Real ou
City.
Manchester City. Mmh. Voilà.
Je remercie Arnaud au 32-16. Les gars, vous avez tout dit, rien à rajouter ?
Si, en parlant d'oseille, le Barça, c'est vraiment le jour noir pour eux, parce que cette défaite fait qu'ils n'ont pas assez de points pour se qualifier pour le prochain Mondial des clubs.
Ah !
Et c'est, vous savez, le Mondial des clubs où il y aura 250 équipes et qui va apporter beaucoup d'argent. Et c'est l'Atlético qui va y aller et pas le Barça.
Très bien. Je t'avoue qu'on a un peu du mal à se projeter vers le Mondial des clubs.
Est-ce que ça signifie que
non seulement j'ai pas envie de me projeter, mais je crois que je m'en fous en plus.
Non mais parce qu'on me demande si j'ai un truc à rajouter. On a 10 secondes.
Non mais t'as rajouté, mais moi j'ai le droit de m'en foutre.
On me demande de rajouter,
j'ai le droit de m'en foutre de ce que tu rajoutes.
Ah ben ça tout à fait.
Salut Fred, salut Polo.
Et tu sais, c'est comme chez le boucher, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même.
Voilà, mais quand même.
On vous retrouve demain.
Allez.
On vous retrouve demain. Juste une petite info pour vous dire que Neymar est toujours rageux. Aujourd'hui, je sais pas, il y a un gars là qui a posté un message.
On a des nouvelles du supporter du Barça, Neymar?
Bah attends,
il a tweeté un truc là pour se féliciter.
Non, je sais pas, mais aujourd'hui, en tout cas, il y a un compte là qui a Insta en portugais qui a relayé de l'actu sur le foot et qui a parlé de Mbappé. Et Neymar, il a répondu en dessous. Bouchez-vous les oreilles si vous êtes avec des enfants. Il a dit susboule.
Ah ouais, ça c'est marrant parce que je pensais qu'ils étaient super potes et tout. On essayait de nous raconter l'année dernière.
Bah écoute, voilà, c'est réglé.
Allez.
Attention, le vainqueur bien, du jour des places pour les Jeux Olympiques est là. Il s'appelle Riyad. Salut Riyad.
Bonsoir,
Arthur. Oh, Riyad, tu vas te régaler, hein. Les cadeaux, ils sont ouf.
Riyad, t'as été tiré au sort. T'as le choix entre, écoute bien, hein. T'as le choix entre deux places pour la cérémonie de clôture. C'est le 11 août au Stade de France. Ou deux places pour les épreuves mixtes par équipe de judo. Donc, Teddy Riner, Agbeni Enou. Ça, c'est le 3 août au Champ de Mars.
Ouais, ça, c'est mieux.
Ouais, je prends le judo.
Ah, bah, je pense que t'as bien raison. Tu vas te régaler avec le judo, Riyad, c'est génial.
Ouais. RMC, franchement, merci. Ce soir, je suis aux anges en tant que supporter du PSG.
Oh là, c'est la régalade. Hein.
Ce soir, c'est la régalade, vraiment.
Bah, écoute, le PSG et les Jeux Olympiques, ça tourne une soirée. C'est cadeau.
Oh là là là.
Et on continue demain. Demain, on sera. Bah, maintenant, même aujourd'hui, on est à 100 jours des Jeux Olympiques. Encore des places à gagner toute la journée, évidemment, et jusqu'à vendredi prochain. La libre antenne de l'After est là. D'ici demain, n'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur l'after.media. Vous avez des offres magnifiques pour vous abonner à la revue de l'After. S'abonner à la revue de l'After, c'est soutenir l'After, c'est faire partie de la famille, mon cher Thibaut. 4,20€ par mois, c'est donné.
Oh, ouais, pour moi, j'attends toujours que tu me les envoies, mais.
4,20€, tu vas pas faire le crevard quand même.
En plus, ce soir, j'ai passé des paris, donc ça y est, je peux m'abonner.
Voilà, c'est bien, l'after.
Ah oui, ah oui, alors faut que je raconte.
C'est fort.
Vas-y. Comme Mbappé avait mis un but et Thibaut, déjà il était content quoi qu'il en soit. Hein. Il dit bon allez, maintenant il me faut la cerise sur le gâteau, le doublé de Mbappé. Je lui dis ah ouais, mais pourquoi? Tu vois là, on est déjà qualifié et tout. Il fait la cote à 8. Il avait visiblement joué.
Annoncé hier.
Ah oui, en plus,
on a fait les paris ensemble. Avec toi et Jérôme, on l'a fait sans flamme.
Quand Mbappé a mis le deuxième. Mais il a fait un saut, il est parti du canapé, il a failli atteindre le plafond.
Donnarumma.
Il a fait la cote à vite. La cote à vite.
Il a fait le meilleur sorti que Donnarumma.
Bah bien sûr.
Il arrêtait pas de hurler la cote à 8.
T'es un malade. C'est complètement fou.
Et en plus, j'ai joué une forte somme.
Ouais, mais combien t'as mis pour la cote à 8?
5 euros, mon gars.
Oh là là, t'as vu comme t'as sauté au plafond, je pensais que t'avais mis 100 balles au moins.
Oui, mais non, je peux
donc
pas.
Donc t'as pris 30 balles.
J'ai pris 36 euros. J'ai un autre pari qui est
bon. Wow. 36 balles, ça volait. T'as failli crever le plafond pour 36 balles.
Est-ce que tu es sorti le pour en avant comme Donnarumma?
Je sais plus.
J'ai bien aimé la punchline de. J'ai bien aimé la punchline de Duga tout à l'heure chez vous qui a dit Donnarumma c'est le seul gardien qui est moins grand quand il saute.
Il a totalement raison.
Très bonne punchline.
Allez, la libre antenne, c'est tout de suite avec vous, les gars. C'est parti jusqu'à 1h30 du matin.
RMC jusqu'à 12h30.
L'after foot.